Par exemple, il ne faut pas dire « Ah, mais tu es toxicomane ». Non, on ne dit pas toxicomane, on dit consommateur de produits psychoactifs. Ou alors « Ah, mais tu es un chemsexeur ». Non, alors ça, c'est vraiment un terme à bannir. Je sais que ça est très utilisé, mais non, chemsexeur, non, ce n'est pas possible. Parce que, en fait, dans le domaine associatif, on ne réduit jamais quelqu'un à sa pratique, à sa maladie ou à son handicap. Donc, pourquoi dire un chemsexeur ? Pourquoi coller une pratique qui tue sur le visage de quelqu'un ? C'est une personne avant tout qui pratique le chemsex, certes.
Bonjour à toutes et à tous, c'est Antonella Francini, bienvenue à l'hebdo du lobby. Quand on m'a proposé d'enregistrer cette émission sur le chemsex, j'ai tout de suite cherché des références dans la fiction, des films, des séries, des livres. Alors pour ceux qui n'ont jamais entendu parler du chemsex, on va commencer tout simple, c'est la contraction de chemistry, sous-entendu les drogues en anglais, et de sexe, c'est donc du sexe sous l'emprise de drogue. J'ai passé en revue dans mon esprit les films où je me disais peut-être qu'il y a une scène de chemsex, une représentation. Je me suis demandé est-ce qu'il y en avait dans 120 battements par minute, est-ce qu'il y en a dans la série It's a Sin, dans les films de Xavier Dolan. Bon, je me suis rendu compte que c'était pas si évident de trouver des références où on en parle explicitement, et je me suis aussi rendu compte que dans mon imaginaire, comme dans celui de beaucoup de gens, le chemsex, on le relationnait à la communauté LGBTQIA+, et surtout au milieu des hommes gays. On va démêler le vrai du faux, les idées reçues de la réalité dans cette émission. Et j'ai continué de faire des recherches. J'ai écouté une émission de Caroline Gillet sur France Inter, c'était un full continental de 2021, qui s'appelle « Chemsex à l'ami qui mérite un amour ». Et elle interviewe un médecin qui s'appelle Thibaut Jedrewski. Et ce médecin explique que c'est en train de devenir une épidémie. Il trouve des points communs entre ce qui se passe en ce moment et l'épidémie du VIH dans les années 80. On va en reparler. Donc pour démêler tout ça, je suis aujourd'hui avec Sébastien Quenu, président de ChemsPause. Bonjour Sébastien.
Bonjour Antonella.
Est-ce que ça va ?
Ben ça va très bien, oui, merci.
Bienvenue sur le lobby.
Merci.
On va peut-être commencer très simple. Donc, je le disais, chemsex, c'est la contraction de chemistry et sexe en anglais. Mais est-ce que tu peux nous dire un peu plus exactement, c'est quoi exactement cette pratique ? Ça peut prendre quelle forme, le chemsex ?
Alors, le chemsex, c'est à proprement effectivement parler de mélange de produits psychoactifs avec le sexe. Donc, l'objectif de prendre ces produits avec le sexe, c'est de décupler le désir, l'envie, les sensations, en fait, d'augmenter ce plaisir. C'est un petit peu comme si vous allez arriver à votre climax de quand on ne prend pas de produit, mais tout de suite. C'est quelque chose qui est malheureusement très répandu. Je dis malheureusement parce que on peut pas nier. Il y a des gens qui meurent de la pratique du chemsex. C'est une pratique à haut risque. Et c'est effectivement une envie au départ, probablement de vouloir plus de plaisir, mais surtout, personnellement, je parle en mon nom, je trouve que c'est beaucoup un symptôme de problématiques et de traumatismes non résolus. Et souvent, les personnes rentrent dans la pratique du chemsex par mimétisme, à cause de la solitude, à cause de l'isolement, à cause de traumatismes comme l'homophobie, par exemple, qu'elle soit vécue dans la famille ou dans le travail ou dans la vie de tous les jours. Puis, quand on est dans une société où déjà on est obligé de faire un coming out pour de s'expliquer sur sa sexualité, c'est déjà un traumatisme.
Et les formes que ça peut prendre, ça peut être, j'imagine, une pratique plus solitaire ou un à un, mais ça peut aussi être dans le contexte de la fête, ça peut avoir des formes super diverses.
Alors en fait, ça va dépendre de chacun. On est tous très différents et donc on va utiliser les produits en fait de manière à nous satisfaire. Qu'est-ce qui nous satisfait aujourd'hui ? Qu'est-ce qui va nous satisfaire demain ? Évidemment, ça va dépendre de beaucoup de choses. Parfois, on peut effectivement, par exemple, dans le chemsex, des personnes qui vont utiliser les produits directement avec une personne, et puis ça va être à deux, et puis point final. Et puis parfois, ça va être à plusieurs, donc dans des partouzes, dans des appartements où il y a plusieurs personnes, avec une recherche quasi constante de toujours plus de personnes. Donc les personnes vont aller sur Grindr, sur Scruff, sur toutes les applications de rencontres pour pouvoir ramener toujours plus de personnes à la soirée, à l'after, qui va s'étendre parfois pendant des jours. tout simplement pendant des jours, parce que les produits vont annihiler un peu toute douleur et toute sensation d'alerte du corps. Et donc, évidemment, plus de sensation de faim, plus de sensation de soif, plus de sensation de fatigue. Et tout ça, ça va devenir de plus en plus dangereux. Plus ça va s'étendre sur des jours et des jours, plus il y a des risques pour la santé. Et puis, bien évidemment, ça va dépendre aussi du produit qui a été pris. En général, les catinones sont utilisées dans le chemsex. Et puis, on a aussi le GHB ou le JBL, qui sont des produits qui sont très addictifs et qui, malheureusement, en fait, à un millilitre près, par exemple, sur le GHB, bah, on peut mourir. C'est au millilitre près. Donc, c'est dire à quel point la pratique peut être dangereuse. Et même si, au départ, on va avoir tendance à gérer sa consommation, c'est-à-dire on sait ce qu'on va prendre sur la première prise, mais plus on va prendre, plus notre état va être altéré. Et à partir de ce moment-là, se dire qu'on gère et qu'il n'y a pas de risque, ça va devenir très compliqué.
Donc là, tu mentionnes un des risques qui est tout simplement le risque d'overdose, qui est lié aux pratiques de drogue, même en dehors du chemsex. Mais exactement. Là, dans le chemsex, ça peut être quoi les autres risques liés à la pratique ?
Alors, le risque le plus grand, évidemment déjà, et le plus commun, c'est l'addiction. Et l'addiction est une maladie, c'est important de le dire. Donc malheureusement, dans la pratique du chemsex, encore une fois, je vais parler en mon nom, mais honnêtement, je le vois bien aussi bien sur les applications, sur les gens que je peux rencontrer, ou alors directement via mon association ou les autres associations dans lesquelles j'ai pu être, qu'on a un pourcentage de plus de la moitié, au moins en tout cas, de gens qui pratiquent le chemsex qui sont dans une addiction vis-à-vis du chemsex. Et donc là, on est sur une problématique puisque c'est une vraie maladie et que les personnes ne vont pas pouvoir arrêter la consommation de produits et vont aussi, comme ils lient ça avec le sexe, le jour où ils vont vouloir arrêter ou ils vont prendre conscience de leur addiction, il va falloir arrêter les produits, mais malheureusement et aussi, souvent, ils doivent arrêter le sexe. Et ça, c'est retour à la solitude et à l'isolement. Et bien évidemment, bah, en dehors de ça, il y a la dépression, hein, puisque toutes les drogues qui sont utilisées sont des dépresseurs. Donc, y a une dépression qui peut s'installer. Il y a évidemment, pour toute montée de produits, une descente. Ça aussi, c'est aussi quelque chose de compliqué. Et puis, il y a évidemment les risques potentiellement de s'éloigner de ses amis ou de sa famille parce que ceux qui ne consomment pas ne valident pas la propre consommation. Donc, il est important, en général, pour les gens qui pratiquent le chemsex, de s'entourer de personnes qui vont valider leur propre conso. Et donc là, c'est pareil. C'est-à-dire qu'on va s'éloigner de la famille, potentiellement s'éloigner aussi des amis, qui sont habituellement là au quotidien, peut-être des amis de longue date, mais qui sont souvent, j'ai envie de dire, des vrais amis. Il se peut aussi que ces mêmes amis s'éloignent de nous, hein, puisque la consommation peut éloigner les autres en disant bah, « En fait, moi, je te vois te droguer quotidiennement, j'ai l'impression que tu dépéris et je ne veux pas être témoin de ça. » Donc ça peut être aussi très difficile pour l'entourage. Et puis derrière, on va avoir aussi cet environnement de gens qui ne seront que des consommateurs ou des consommatrices. Et quand on va vouloir arrêter, ces autres amis consommateurs, consommatrices ne nous appelleront plus parce qu'on ne valide pas leur conso à eux. Et donc là, il va y avoir à nouveau un problème. C'est pour ça que je reparlais de la solitude et de l'isolement. Bien évidemment, donc, je parlais de la dépression, de l'addiction, solitude, isolement dans les deux sens, hein, ce qui amène, et puis parfois, quand on arrête les produits, on s'y retrouve. Et puis évidemment aussi, beaucoup de problèmes psychologiques qui peuvent s'installer, particulièrement quand il y a de la consommation avant un certain âge. Par exemple, on sait très bien que le cerveau continue d'évoluer et de se former jusqu'à l'âge de 26 ans. Si on consomme avant, on sait très bien qu'on peut avoir des problèmes cérébraux et des vrais problèmes psychologiques qui vont s'installer à cause de la consommation de produits quotidiennes.
Et au niveau des maladies sexuellement transmissibles, j'imagine, comme tu disais, plus on prend et moins on est conscient, plus notre état est altéré. Est-ce que là aussi, c'est un risque accru au niveau de l'attention qu'on porte à ça ?
Alors exactement, les IST sont aussi dans le collimateur. Ce sont des choses qui peuvent être... il peut y avoir une recrudescence. Alors bon, en moyenne, je sais que ça a un petit peu changé, mais l'année dernière, c'était le cas. Donc je vais vous donner les chiffres de l'année dernière. On comptait à peu près 33% de personnes vivant avec le VIH qui pratiquaient le chemsex. Donc là, je parle sur toutes les personnes qui pratiquent le chemsex. On est sur 33% de personnes qui vivent avec le VIH, 33% de personnes qui sont sous PrEP. Donc en fait, il y a un vrai désir aussi de se protéger vis-à-vis des personnes qui sont sous PrEP, donc les PrEPeurs, entre guillemets. Et ensuite, 33% de personnes qui considèrent être protégées par leur partenaire. Et là, c'est un vrai problème. Parce que bah, y a des personnes qui peuvent vous dire bah, « moi, je suis sous PrEP » ou alors « moi, je suis VIH indétectable ». Et VIH indétectable, c'est intransmissible, donc il n'y a pas de problème. Mais qu'est-ce qu'on en sait réellement? Puisque ces gens sont en général des parfaits inconnus, qu'on ne les connaît pas, parfois on n'a même pas le prénom, et puis c'est pas un prénom qui va nous garantir une fiabilité dans ce que la personne va nous dire. Et par rapport à la PrEP, c'est pareil, la PrEP protège celui qui la prend, uniquement. Donc on ne peut pas croire sur parole les autres qui nous disent bah, « moi je suis sous PrEP » parce que bah, justement on ne connaît pas réellement la prise. Et puis derrière, je pense que c'est quand même important de le dire, on a quand même une baisse d'efficacité de la PrEP, pas par rapport au médicament en lui-même, mais par rapport au fait que certaines personnes qui consommaient des produits psychoactifs ne devenaient plus observantes vis-à-vis de la PrEP. Quand on dit observante, c'est-à-dire qu'elles n'étaient plus rigoureuses dans leur prise, et la PrEP, ça se prend tous les jours, ou alors si c'est pas en continu, si c'est à la demande, ça se prend pas tous les jours, mais c'est au moins 48 heures après le dernier rapport. Et malheureusement, les personnes qui sont justement sous-produits et qui sont dans un état tellement altéré qu'ils n'ont plus la notion du jour, de l'heure, etc. Et puis en fait, le temps passe et en fait, ils oublient de prendre leur cachet. Et là, ça laisse une fenêtre ouverte pour l'entrée du VIH.
Et est-ce que ça peut être une pratique sans risque? Enfin, j'imagine que risque zéro, non, mais est-ce que ça peut être une pratique qui est, en tout cas, enfin, où il y a un risque atténué?
Alors, comme tu le dis très bien, effectivement, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de risque à partir du moment où on joue avec des produits stupéfiants, qui plus est, sont des produits qui sont vraiment très addictifs. Bien sûr, il y a des personnes qui pratiquent le chemsex et qui n'ont aucun problème avec leur pratique. Ces personnes-là, en fait, justement, ne donnent pas de... Il n'y a aucune habitude dans leur consommation. Ils ne font pas de tout leur week-end un projet de chemsex, par exemple. Ils ne font pas non plus de tout leur mois un projet de chemsex. Ce n'est pas quelque chose qui est déterminé, ce n'est pas une habitude qui s'installe. Ils vont plutôt aller vers une exception, un événement, je ne sais pas moi, un festival en particulier, un jour particulier, etc., qui fait que là, ce sera peut-être l'occasion. Mais à partir du moment où il y a une habitude, quelle qu'elle soit, même je, en général, hein, quand c'est une fois par mois, par exemple, on sait que les gens attendent la fois où ça arrive enfin. Puis après, bah, ça s'étale un peu, ça devient de plus en plus court parce que bah, y a toujours des bonnes raisons pour trouver l'occasion de pratiquer le chemsex et c'est là que l'addiction s'installe. Et en général, quand on se pose la question si on est addict ou non, il est déjà trop tard.
Et c'est quoi l'état des lieux du chemsex en France aujourd'hui? Avant, ça touchait quasi exclusivement la communauté des hommes gays. Est-ce que c'est toujours le cas? Qui pratique le chemsex? Est-ce que c'est très répandu? On en est où aujourd'hui?
Alors, déjà, c'est sympa que tu parles d'un état des lieux. Et effectivement, je pense que ce serait vraiment nécessaire, seulement on n'en a pas. On n'en a pas parce que le gouvernement n'a rien fait pour ça, en tout cas. Qu'il y a des gens qui décèdent malheureusement dans la totale ignorance. Je fais quand même une petite parenthèse et j'ai envie de rendre honneur à Emmanuel qui est décédé ce week-end à l'âge de 51 ans, qui était dans une grande précarité à cause de la pratique du chemsex. Et voilà, c'est ces personnes qui décèdent dans la totale ignorance. Bah, en fait, derrière, on va simplement dire qu'elle est morte d'une crise cardiaque ou d'un AVC en général. Mais on ne va pas dire que c'est lié à la pratique du chemsex. Donc en fait, là-dessus, on n'a vraiment rien, on n'a aucun chiffre. C'est un vrai problème. Ensuite, par rapport au fait que ce soit principalement une pratique utilisée par les personnes, par les hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes, oui, c'était le cas il y a encore quelques années, mais aujourd'hui, pas du tout. C'est vraiment, ça touche tout le monde, tout le milieu LGBTQIA+, et aussi le milieu hétérosexuel, particulièrement dans le milieu libertin. Il y a des soirées à Paris qui sont très orientées LGBTQIA+, et où on peut voir aussi beaucoup de femmes, qu'elles soient bisexuelles, ou qu'elles soient trans, ou qu'elles soient hétérosexuelles, et qui consomment des produits dans un cadre de chemsex, parce que ces soirées-là offrent aussi un espace de cruising. Et puis, les afters ensuite suivent derrière, qui sont des afters tous, et à ce moment-là, on peut retrouver aussi bien des hommes qui, ayant des relations sexuelles avec des hommes, mais aussi des femmes avec des personnes bi. Et puis, le risque aussi, et c'est important d'en parler aujourd'hui quand même aussi, puisque tu me parlais des risques dans le chemsex, c'est les agressions sexuelles. Parce qu'au bout d'un moment, quand on est dans un état tellement altéré, on n'est plus capable de donner un consentement Potentiellement, on peut frôler le coma ou être dans un coma, c'est-à-dire un geôle ou un kéole ou peu importe. Et à ce moment-là, bah, en fait, les autres qui sont autour vont avoir des rapports sexuels avec nous sans nous le demander, mais comme on est là, bah, ils y vont. Et en fait, bah, malheureusement, les personnes se font violer, hein, littéralement. Et elles ont bah, des images un peu réminiscentes quelques jours après, ou alors quelques heures après, simplement. Et elles ont cette conscience parce qu'elles ont potentiellement des images de qui a été leur agresseur. Mais ça s'est passé comme ça. Et c'est ce qui est difficile aussi, c'est que ces personnes-là se sentent coupables. Elles ont l'impression d'avoir mérité, parce qu'elles se sont mis elles-mêmes en danger, en tout cas c'est ce qu'elles vont considérer, et elles vont garder ça pour elles et elles vont pas en parler, et ça va être très très dur. Donc les risques sont vraiment multiples dans la pratique du chemsex.
Et est-ce qu'il y a d'autres communautés à part la communauté gay où il y a quand même un problème un peu plus marqué? Enfin, je pense notamment à la communauté des femmes trans. Est-ce que c'est une réalité? Pourquoi?
Alors, tu fais bien de soulever ça, parce qu'en fait, effectivement, pourquoi le milieu LGBTQIA+ est plus touché au départ avant, par exemple, les hétérosexuels? C'est assez simple. C'est que malheureusement, dans le milieu LGBTQIA+, on a beaucoup plus de facilité à avoir des traumas, à avoir des grosses problématiques, que ce soit des problématiques sociétales, familiales, d'acceptation au travail ou des choses comme ça. Et donc, l'homophobie, la sérophobie, toutes les phobies, quelles qu'elles soient, hein, donc c'est valable aussi pour les hétéros. Par exemple, la grossophobie, c'est quelque chose qui est récurrent. En plus, dans le milieu LGBTQIA+, on classe les corps en leur donnant des noms d'animaux, en général. Donc, c'est assez particulier, surtout quand on n'a pas envie de rentrer dans des cases. Et tout ça, en fait, c'est assez difficile à vivre. Et puis, bah, forcément, il y a derrière quelque chose qui nous amène à vouloir aller mieux. À cause de ces traumas qui ne sont pas résolus, ces problématiques non résolues, bah en fait, le produit, à partir du moment où on va consommer, eh ben, ça va annihiler un petit peu toutes les voies dans la tête, ça va permettre de complètement lâcher prise, ça va permettre d'oublier ces problèmes le temps d'un instant, le temps de la consommation. Et en fait, ça leur fait du bien, en fait, tout simplement. C'est quand on a du mal à vivre et qu'on a un produit qui nous permet de nous sentir mieux, en fait, c'est cette recherche de mieux-être, souvent, que les gens utilisent et se disent, mais en fait, du coup, c'est génial, parce que je me sens mieux quand je prends le produit. De toute façon, c'est le but des drogues. Si ça donnait envie de vomir ou ça donnait la chiasse, par exemple, bah oui, personne ne prendrait ces produits-là. Mais c'est pas le cas. Justement, pendant la consommation, c'est plutôt génial. Alors, le problème, c'est que bah, derrière, c'est pas génial du tout, parce qu'il y a la descente, ça se paye assez cher, et surtout, les risques sont énormes, surtout si c'est au point de perdre la vie.
Le lobby, tous les vendredis à 14h en DAB+, sur Radio Campus Paris.
Et toi, Sébastien, tu es président de l'association Chemspose. Comment elle naît, cette asso? Qu'est-ce que c'est Chemspose?
Alors ouais, Chemspose, c'est une belle histoire, en fait. Moi, j'étais dans d'autres associations avant, mais dans lesquelles je ne me suis pas particulièrement reconnu par rapport à ma position vis-à-vis du chemsex, la nécessité absolue de faire de la prévention vis-à-vis de cette pratique, et surtout d'être sur le terrain. Voilà. Et d'aller au-devant, justement, d'aller vers les personnes qui pratiquent le chemsex. D'autant plus que bah, on voit beaucoup de discrimination et de stigmatisation, même au sein même du milieu LGBTQIA+, voire de certaines associations. Et je pense qu'il était important, en fait, de pouvoir trouver un lieu un peu plus safe. Et en fait, Chemspose existait avant en tant que simple groupe Instagram. Et je le suivais. Et j'avais contacté, à un moment donné, la personne qui était derrière. Il s'avère que cette personne s'appelle Jean-Patrick Fabre, c'est le secrétaire de l'association. Et un beau jour, moi, nous, on discutait déjà pas mal, je lui expliquais un peu mon histoire dans les associations, ce que je vivais même à l'instant T quand je lui en parlais. Puis au bout d'un moment, je lui ai dit, mais et si on faisait de Chemspose une association, est-ce que tu serais partant? Et il m'a dit oui, carrément. Il me dit, c'est avec toi, go. Et là, bah en fait, ça s'est fait un peu naturellement. Je lui ai dit, écoute, comment on répartit les membres du bureau. Il me dit, ah bah écoute, toi, tu fais le président parce que j'ai pas envie de parler. Et puis moi, je serai secrétaire parce que j'adore écrire. Et donc, c'est comme ça qu'on a décidé de monter Chemspose, mais avec derrière une réelle intention, une réelle envie, en fait, d'apporter un parcours de soins, d'apporter de l'attention, d'apporter une écoute, un espace safe. Parce que, bah, en l'occurrence, Jean-Patrick, lui, il avait créé Chemspose par rapport à sa propre consommation à lui, qui, quand il a décidé d'arrêter, de rentrer dans l'abstinence. Et donc, en fait, c'est là qu'il a créé ChemSpose. Et moi, je trouvais ça génial, justement, d'avoir créé ça et de se dire, bah, on peut faire de ChemSpose un lieu où les autres personnes vont pouvoir s'y retrouver de la même manière que lui, parce que quand il l'a créé, c'était son envie. Et je trouvais ça génial. Et aujourd'hui, bah, ChemSpose, on l'a créé en septembre là, 2024. Donc, c'est hyper, ça fait vraiment pas longtemps. Mais on bénéficie de beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes qui nous suivent, des gens qui trouvent que bah, ce qu'on dit est pertinent et surtout qu'on on dit tout haut ce que beaucoup pensent tout bas et ce que malheureusement bah, d'autres associations ne font pas forcément parce qu'il n'y a pas forcément de prévention vis-à-vis de ça. Il y a beaucoup de réduction de risque. Ça, il n'y a pas de problème et c'est important de faire de la réduction de risque. Mais je pense quand même aussi qu'il faut faire attention à cette réduction de risque parce qu'il y en a... Il y a certaines réductions de risque qui sont un peu glamourisantes de la pratique et ça, c'est vraiment un danger parce que des personnes qui ne pratiquent pas mais qui se retrouvent justement dans la solitude et l'isolement, s'ils tombent sur cette réduction de risque, ils vont voir ça un petit peu comme quelque chose d'un peu sexy en fait. Et de se dire, ouais, c'est cool en fait, je vais peut-être faire ça parce que moi, je suis toujours
seul
chez moi. Oui,
je peux faire ça en étant safe. Oui.
Exactement, c'est ça.
Et c'est quoi vos domaines d'action à ChemSpose ?
Alors nous, on fait, on a vraiment besoin d'aller vers. Donc c'est, on a besoin du contact avec les consommateurs et consommatrices. Donc déjà, notre priorité, c'est effectivement de faire des groupes de parole à destination des consommateurs et consommatrices qui sont en questionnement et, ou alors qui veulent, qui ont un projet d'abstinence. J'aime dire consommatrice, c'est hyper important aussi parce que malheureusement, on a des, pas mal de groupes de parole qui ne sont pas mixtes, qui n'acceptent que les hommes. Donc ça, c'est un vrai problème, parce que les femmes sont laissées de côté. C'est pareil pour certains visuels de réduction de risque. Hein, genre, on ne voit pas de femmes. Donc, où sont les femmes trans? Où sont les femmes... c'est juste pas possible, puisque elles sont elles-mêmes aussi touchées. Donc, on ne peut pas les laisser sur le carreau. Et puis derrière, on est en train de mettre en place, le premier groupe sera le 15 décembre, c'est un groupe de parole avec père aidant. Père et père aidante. Et en fait... Ça permet à un consommateur ou une consommatrice de venir directement avec une personne de leur entourage qui les soutienne. Ça peut être un ami, de la famille, un conjoint, une conjointe. Et ça, c'est vraiment important parce que parfois, il y en a qui n'arrivent pas à passer le premier pas d'un groupe de parole, à venir seul. Donc là, ça leur permet de pouvoir venir accompagner. Et puis, ça permet aussi au père aidant ou à la père aidante de mieux comprendre les problématiques rencontrées par la personne qui consomme. Et ça permet aussi de peut-être sûrement mieux les unir et d'être dans un projet commun vis-à-vis de l'abstinence de la consommatrice ou du consommateur. Et puis très bientôt, et on l'espère, on fera aussi des groupes de parole destinés que aux pères aidants et pères aidantes, de manière à se retrouver un petit peu, mieux se soutenir aussi. Et puis j'ai envie de dire, je pense que c'est hyper important, c'est qu'il y a des personnes qui malheureusement ne sont plus pères aidants ou pères aidantes parce qu'elles ont perdu le consommateur ou la consommatrice qu'elles accompagnaient. Et ça, elles peuvent être suivies par un psychologue, c'est bien, mais c'est bien aussi de pouvoir en parler dans des groupes de parole et je pense que ce sera efficace, je l'espère, et on espère leur apporter tout notre soutien. On va aussi développer des groupes d'activités sociales de manière à casser cette solitude et cet isolement qui permettra en fait aux personnes de faire simplement des activités sportives, artistiques, également des karaokés, des choses comme ça pour renouer avec une vie sociale.
Ça m'emmène à des questions qui sont très simples, très pratiques et la réponse elle n'est pas simple du tout. Quand on est consommateuriste ou qu'on pratique le chemsex, c'est quoi les pistes pour commencer à s'en sortir ?
Alors, déjà, tout dépend si on a besoin de s'en sortir. C'est-à-dire, est-ce qu'on est dans l'addiction ou pas ? Alors, évidemment, comme je l'ai dit, je pense que la majorité est quand même dans l'addiction. Donc, pour toutes les personnes qui considèrent qu'elles sont dans une addiction et que, surtout, il y a des problématiques qu'elles rencontrent réellement dans leur vie par rapport au chemsex, dans ce cas, il faut évidemment en parler le plus possible. Il faut un vrai parcours de soins digne de ce nom. Hein. Donc évidemment, puisqu'il y a des produits, il faut un addictologue. Et puisqu'il y a des problèmes psychologiques derrière, il faut un psychologue. Ensuite, les groupes de parole, c'est vraiment un endroit qui permet de casser la solitude et l'isolement liés à l'arrêt de la consommation. Parce que quand on arrête, ben, comme je vous l'ai dit, bah, tous les gens qui validaient notre conso avant et qu'on leur a dit maintenant bah, « je consomme plus bah, », ils ne nous invitent plus. Ni aux soirées, ni aux tous, ni aux anniversaires, ni à rien du tout. La solitude s'installe à nouveau. Donc les groupes de parole permettent justement de pouvoir rencontrer d'autres personnes dans la même optique. dans la même démarche et de pouvoir se soutenir, et ce qu'on appelle des groupes d'auto-support. Donc ça, c'est vraiment important. Derrière aussi, moi, ce que j'invite c'est, les gens, c'est à retrouver les passions qui les animaient avant, parce que malheureusement, la consommation a un peu annihilé toutes les autres formes de passion possibles, puisque le produit est devenu la passion principale avec le sexe. Et puis surtout, de retrouver une sexualité plus proche, plus connectée. Parce que le chemsex, ça ne connecte pas tant avec l'autre. C'est, le chemsex, ça réveille des pulsions, des envies qui sont très impulsives. Elles sont très, au bout d'un moment, je veux dire, c'est plus la personne avec qui on a une relation sexuelle qui nous intéresse. C'est la relation sexuelle en elle-même. Genre ce qui va, c'est la pénétration, la fellation, c'est vraiment ça. Et peu importe au bout d'un moment avec qui. Donc l'intérêt derrière, c'est de pouvoir renouer avec une sexualité et avec le corps de, avec notre propre corps, nos sensations, nos émotions, et avec le corps de l'autre, ses sensations, ses émotions, être à l'écoute de l'autre et de retrouver une sexualité, je dirais, plus saine, parce que quand elle a été dans l'addiction du chemsex, bah forcément elle était plus saine. Et surtout, j'aime dire que toutes les sensations qu'on peut retrouver dans la consommation de produits via le chemsex, ce sont des sensations qui sont superficielles par rapport au produit, mais qui peuvent être ressenties sans produit. Mais pour ça, il faut aussi le ou les bons partenaires.
Et pour les personnes qui sont père aidante, comment est-ce qu'on peut accompagner un proche qui nous fait part de ces difficultés ?
Bah déjà, il faut accueillir ça. Parce que c'est déjà énorme si un proche se confie et parle de cette difficulté qu'il a. Ensuite, il faut aussi ne pas être dans le jugement. Par exemple, il ne faut pas dire « Ah, mais tu es toxicomane ». Non, on ne dit pas toxicomane, on dit consommateur de produits psychoactifs. Ou alors « Ah, mais tu es chemsexeur ». Non, alors ça, c'est vraiment un terme à bannir. Je sais que ça est très utilisé, mais non, chemsexeur, non, ce n'est pas possible. Parce que, en fait, dans le domaine associatif, on ne réduit jamais quelqu'un à sa pratique, à sa maladie ou à son handicap. Donc, pourquoi dire un chemsexeur ? Pourquoi coller une pratique qui tue sur le visage de quelqu'un ? Voilà, c'est une personne avant tout qui pratique le chemsex, certes. Et enfin, effectivement, être présent. Parce que la solitude et l'isolement, c'est quelque chose que la personne va rencontrer. Hein. Le consommateur ou la consommatrice va se retrouver vraiment très seul dans sa démarche. Ça ne va vraiment pas être évident. Et pouvoir répondre présent le plus possible, je pense que c'est déjà beaucoup. L'écoute, une écoute attentive, active. Et puis peut-être, effectivement, venir à un groupe de parole avec père aidant pour l'accompagner, ce serait aussi quelque chose de chouette.
Merci beaucoup Sébastien. Est-ce que il te semble qu'on a tout abordé ? Il manque quelque chose à mentionner ?
Oui, alors moi je rajouterais bien quelque chose. En fait, c'est pour moi quelque chose d'important que j'ai déjà fait en l'occurrence. Il y a une pétition en fait qui a été portée par les élus contre le SIDA qui s'appelle Urgence Chemsex pour le déposer en fait auprès du gouvernement afin que on puisse faire une prévention nationale sur le chemsex. Et je pense que c'est très important. Donc j'invite tout le monde à la signer. Elle est en ligne. Voilà, c'est Urgence Chemsex. Vous la trouvez très très facilement. Et je pense que c'est important parce que aujourd'hui le gouvernement doit répondre de ce problème de santé publique. C'est pas un problème juste de communautaire, c'est vraiment un problème de santé publique et il faut pouvoir accompagner les gens le plus possible. Et puis aussi, on en a marre d'avoir des retours du ministre de l'Intérieur alors qu'on devrait avoir des retours de la ministre de la Santé.
Merci Sébastien d'avoir été au lobby sur Radio Campus Paris. On vous retrouve sur les réseaux sociaux, Instagram par exemple, sur le compte ChemsPose. Et on se quitte en musique avec le morceau « Bikeuse amoureuse » de Gio Ventura et Rebecca Warrior. C'est issu de la BO des Reines du Drame. Vous pouvez d'ailleurs retrouver une interview du réalisateur Alexis Langlois dans notre émission hebdo de la semaine dernière. À bientôt Sébastien.
À bientôt.
Les vapeurs de ton pot d'échappement me shootent jusqu'à l'évanouissement. Le parfum de sueur et d'essence de ton cuir noir qui m'a mise en transe. Quand elle s'enroule de mécanique, mes boules en chaleur ont la trique. Oh ma bikeuse, reviens cette nuit, me doigter sur ta Suzuki.
Cette émission a été présentée par moi, Antonella Francini, et réalisée par Colin. Bisous, Colin. Tous nos épisodes sont à retrouver sur le site de Radio Campus Paris et sur les applications de podcast. Rendez-vous mardi à 20h pour notre mensuel en direct. Et on se retrouve aussi sur Instagram, @lelobbyrcp. À la semaine prochaine.